Cuisin, ombre sanglante, Niobé ou l'élève de la nature, mœurs parisiennes. L'amour a une sorte de sérail où d'horribles vautueux font débauche de sang. Le chevalier de Saint-Hilaire, brillant libertin de la chaussée d'Antin, ne s'était marié que par ton, par lassitude de la vie de célibataire, et n'avait pris femme que comme on ferait l'acquisition d'un équipage, d'une piquante invention, et seulement pour jouir des plaisirs sans conséquence d'une simple nouveauté. Il disait à cet égard à ses amis, dans son impudente fatuité, en parlant de l'état de mariage, « Oh, il faut tâter un peu de tout, je veux voir ce que c'est que ça. » Le jour qu'il se plaça vivant dans le cercueil conjugal, suivant encore son expression, ses compagnons d'intrigue et de débauche firent pleuvoir sur lui 20 épigrammes, plaisanteries usées dont les maris sensés font d'ailleurs fort peu de cas, et pour un madrigal, Saint-Hilaire reçut maintes satires. Entre autres, certain caustique lui adressa ses vers. Depuis plus de 6 mois, Pyrame de Célimène heureux amant, de plus douces faveurs a vu combler sa flamme. Là de jouer le sentiment, il la prend aujourd'hui pour femme. C'est là se quitter décemment. Mais Saint-Hilaire, supérieur aux atteintes de ce genre de raillerie, en riait de tout son cœur et, le premier, composait sur son nouvel état des quatrains fort comiques. Pourquoi s'était-il donc marié ? Me demandera le lecteur. Mais d'abord, comme je l'ai déjà dit, par amour des nouveautés, puis la nécessité de rétablir une fortune altérée par une inconduite ruineuse. Ainsi, en épousant Elisa Volupi, c'est ainsi que se nommait la chère moitié, avec laquelle il avait d'ailleurs vécu quelques années dans une intimité peut-être un peu trop philosophique, il remontait parfaitement ses affaires au moyen d'une riche succession qui venait des blanchoirs à cette dernière. Voilà donc beaucoup de motifs, et plus qu'il en fallait, à notre écervelé, pour s'engager dans les liens dignes, d'ailleurs, des plus sérieuses méditations. Élise honora son époux des preuves d'une fécondité fort prématurée, il est vrai, car peu de mois après le sacrement, elle mit au monde une charmante fille qui, malgré qu'elle eût vu le jour soi-disant avant terme, n'en jouissait pas moins de la force d'une croissance complète. J'ai déjà fait entendre que notre couple épicurien, vivant depuis plusieurs années maritalement, ils avaient eu tout le loisir de s'exercer dans un long noviciat aux faits et gestes de l'hyménée. On ne se dotera donc plus d'une postérité si prompte. Cependant, Niobé, c'est le nom probablement allusoire aux grandes infortunes qui lui étaient destinées, que Saint-Hilaire donna à sa petite fille, faisait chaque jour admirer de plus en plus ses grâces, sa finesse et sa beauté. Plaçons-la de suite à cet âge si touchant, si intéressant dans le beau sexe, c'est-à-dire celui de 3 lustres accomplis. Et jouissant des licences accordées aux auteurs, faisons-lui sauter l'estomac tout le temps insignifiant de son enfance, pour ne nous occuper que de l'éducation singulière et mystérieuse que notre jeune héroïne reçut de son père. À peine parut-elle sur la scène du monde que Saint-Hilaire, se refusant à l'idée qu'avait conçue Élisa de nourrir elle-même sa fille, et la raillant amèrement sur ce projet à la Jean-Jacques, enleva Niobé sous le prétexte d'éviter à sa femme des soins trop fatigants pour sa santé délicate. Mais ce ne fut dans un système infanticide que pour l'enterrer vivante dans une maison qu'il avait fait bâtir exprès au faubourg Saint-Honoré, dans une rue très déserte. Ce nouveau temple érigé à la volupté, ou plutôt à l'inceste, renfermait donc secrètement l'infortuné Niobé, qui, du berceau et pour ainsi dire encore dans les langes, fut arraché du sein de sa mère pour passer à l'état complet d'une sauvage et être destiné à devenir la victime d'un père qui, dans ses combinaisons incestueuses, parut ne l'avoir mise au monde que pour la rendre le plastron de ses criminels systèmes et réduire sa vertu au creuset d'une froide analyse. Ainsi, pour l'amour du vice, au vice abandonné, la vertu révoltait son cœur désordonné. « Oh, cher et précieux harem !» s'écriait souvent Saint-Hilaire en parlant de la retraite de Niobé. « Mais tu contiens tous mes trésors, et je n'échangerai pas les attraits que tu renfermes contre la plus belle couronne de l'univers. » Le plus profond mystère régnait d'ailleurs autour de cet asile de la débauche, et pour en éloigner toute sa famille, et même jusqu'aux voisins, ce scélérat méthodique avait fait répandre le bruit que certains esprits revenaient dans le jardin de sa maison. Et de plus, pour profiter de la crédulité du petit peuple, à cet égard, lui-même avec Florimond, un de ses intimes, avait machiné plusieurs apparitions fantasmagoriques, et au moyen encore de certaines mascarades de nuit, avait achevé de donner un air de vraisemblance à ses premières impostures. Élisa, fort superstitieuse, comme la plupart des femmes galantes, ne voulait donc plus mettre le pied dans cette demeure, et cet ingénieux manège évinçait conséquemment encore des témoins dangereux dont le plus léger soupçon pouvait donner l'éveil sur les choses mystérieuses qui se passait sous l'enceinte de cette maison. Saint-Hilaire, dans ses plans coupables, ne se propose donc rien moins que de franchir les bornes les plus sacrées de la nature et de la morale. Et n'a recherché encore les honneurs de la paternité que pour se créer à lui-même une pièce d'expérience de ses monstrueuses hypothèses. S'enlevant à lui-même les consolations que laisse après elle une faute commise dans une passion irréfléchie, il lui faut un crime longuement prémédité, un crime dont sa fille soit la victime. Son moindre attentat ici est donc de frapper de mort civile une jeune vierge dérobée à la société. Et c'est enfin dans son propre sang qu'il se plaît à prendre l'objet de ses ignominieux amours. Ainsi, dans Saint-Hilaire le Libertin, s'allie au profond matérialiste. Mais pour peindre sous des couleurs plus vraies le caractère de ce couple odieux, je veux dire Saint-Hilaire et Florimond, son intime, faisons connaître à nos lecteurs dans de plus grands détails d'abord les localités où vivait mystérieusement l'infortuné Niobé, et ensuite mettant sous leurs yeux une partie de la correspondance de ces deux voluptueux systèmes. Lettre première. Cher Saint-Hilaire, hier à 9 h du matin, suivant tes avis, je fis mettre les chevaux à la voiture et me rendis secrètement à la précieuse bibliothèque où, nouvelle émule de Buffon, tu puises effectivement dans le livre le plus beau, le plus vrai de la nature. Parvenu à la chambre à coucher, par le petit escalier qui conduit à la terrasse et à la volière, muni de tes clés et d'abondantes provisions, je commençai, avec le plus de précautions possible, par écarter les pins qui règnent autour du grillage, puis je fis partir le ressort de la soupape que les branchages des arbres masquent si ingénieusement. Sur la pointe des pieds, le cou tendu, je suis descendu sous la terrasse et je suis parvenu enfin à cette voûte mystérieuse. Je m'arrêtai un instant, avide de saisir le bruit du moindre mouvement que Niobé pourrait faire, mais je me convainquis, par le silence qui régnait partout, qu'elle dormait profondément alors. C'est bien là le sommeil de l'innocence. Et le public, mis dans le secret, ne t'aurait-il pas de grandes obligations de la conserver intacte dans ce sexe naturellement si fragile? J'employais beaucoup de force à faire pivoter la tour pour en atténuer le cri aigu. J'y plaçais, sans presque reprendre ma respiration, la crème, les biscuits, les fruits secs, un assez fort gâteau composé de riz et de froment, un poulet simplement bouilli et beaucoup d'autres comestibles de conserve et qu'elle ne pouvait consommer en moins de 6 jours, ayant toujours soin d'observer à cet égard tes minutieuses instructions. Je fixais aussi mes yeux à l'ouverture secrètement pratiquée. Effectivement, elle reposait, mais dans quelle charmante attitude! Je sais combien ta curieuse volupté est avide de ces détails lorsque tu confies cette seconde Ève à mon amitié. Niobé était étendue, ou pour mieux dire, comme mêlée avec les draperies de velours noir que nous avons jetées il y a quelque temps sur ses carreaux d'édredon, le front sain de son bras droit, l'autre tombant mollement contre son amoureux corsage, sa gorge éblouissante de blancheur et déjà si bien formée, livrait à mes brûlants regards ses divins contours. Ses longs cheveux d'ébène, répandus avec profusion sur son beau corps, semblaient jaloux de servir de voile à ses vierges attraits. Sa bouche si fine et ses grands yeux noirs demi-clos paraissaient vouloir exprimer quelque chose, sans doute de céleste, puisque cette belle créature n'entretient aucun commerce avec le genre humain et que tout lui est inconnu jusqu'à la lumière du soleil. Niobé s'est réveillée. Elle a fait quelques mouvements où la pudeur et la modestie disparurent sous les plus voluptueuses attitudes. Elle a ensuite jeté les yeux sur ses provisions et s'était lancée dans le plus grand désordre, c'est-à-dire sans autre parure que celle de sa beauté virginale. Et quel frémissement ne m'a-t-elle pas causé? Un roi, en vérité, ne m'annoncerait pas à échanger sa couronne contre un pareil trésor. Elle a mangé, mais d'une manière un peu animale. Pardonne-moi cette expression, Saint-Hilaire. Elle s'est versée très adroitement de l'eau dans son gobelet d'argent. Quelques gouttes tombèrent sur son sein. Elle n'aurait pas coulé plus rapidement sur une glace, tant sa carnation veloutée est ferme et satinée. Sa démarche est toujours vive. C'est un jeune faon qui bondit, mû par l'impétuosité de la jeunesse. Ses yeux chastes ne se portent jamais sur sa personne, dirigés par l'instinct du plaisir. Il n'est donc réservé qu'à l'heureux Saint-Hilaire de jeter la première étincelle dans ce cœur novice, et scrupuleux confident et dépositaire, tu me verras toujours porter la fidélité et la discrétion jusqu'à l'héroïsme. Entends-tu d'ici cette voix sauvage, ces accents fauves exprimés pour la première fois, les mots de tendresse et d'amour, cette bouche divine épelée l'ABCD du délire, et ces yeux pleins de flammes, étrangers à l'artifice de nos astucieuses parisiennes, apprendre à mourir avec une douce langueur? Mais où m'égarais-je, Saint-Hilaire? Oh, pardonne-le-moi. Niobé vient d'embrasser tous mes sens, et je quitte la plume, car je ne pourrais pas avoir d'autre guide que l'effervescence dans laquelle Niobé a plongé tous mes esprits. Voilà, j'espère, de précieux matériaux pour composer ton grand livre de la nature. Florimond. Note. Saint-Hilaire, qui fut retenu chez lui par quelques difficultés qu'il importe peu de faire connaître, y reçut cette lettre de Florimond, et y fit aussitôt la réponse suivante. Nous en avons retranché les dissertations scandaleuses qu'il y fait au mépris de la morale, pour tâcher de justifier par les sophismes le plan criminel qu'il s'est tracé à l'égard de Niobé, et nous n'en laissons que ce qui est indispensable à la conduite de l'action. Lettre deuxième de Saint-Hilaire à Florimond. Paris le 1800. C'est trop longtemps, mon cher Florimond. Arrêté sur des épisodes fades, ma pensée brûlante de courir un sujet du plus haut intérêt. Parmi tant d'intrigues qui me font briller sur la scène du monde, commencerai-je par mes amours à huis clos, par cette chère Niobé qui m'offre dans sa personne, toute divine dans son isolement total des autres êtres, des nouveautés si piquantes? Hier, je ne te les dissimulerai pas, Florimond. Il m'a fallu la vertu d'un dieu pour étouffer en moi la chaleur la plus vive, les désirs les plus violents que jamais sa vue m'ait inspirés. De quelle sensation nouvelle mon âme fut atteinte en mettant le pied la nuit dernière, à minuit, dans le souterrain. Je l'avouerai, je fus sur le point cette fois d'abandonner toutes mes résolutions et de jouir de cette rose avant qu'elle soit parvenue à tout son éclat. Mais bientôt, enchaînant mes mains et mes passions, je me bornai à contempler la belle Niobé, telle que le fougueux Pygmalion adorait Galatée, trop heureux de souffler un jour, dans son âme inculte, cette force d'amour et de sentiment qui m'anime pour elle. Mais venons à des détails curieux. Je mis les nouvelles provisions, celles que tu avais apportées, la surveille étant déjà plutôt gaspillée que consommée, à leur place ordinaire. Niobé ne dormait pas comme lors de la dernière visite. Tu es pour les songes, à ce qu'il paraît, chez Florimond, car ton récit a bien toute la tournure d'un somnambulisme. Écoute celui-ci, et vois si Paris entier, la charmante Herminie même, cette nouvelle ingénue que j'ai su séduire, pourrait offrir une scène plus piquante. Je ne lui cachais ni le bruit ni le mouvement que fit le tour en pivotant à demi. Ses grands yeux, alors un peu hagards, se fixèrent sur cette machine mouvante avec un mélange de crainte et d'étonnement. Dans cet instant, elle ne prit rien de ses provisions. Je vis bien que l'inquiétude seule de l'objet remuant qui les avait apportées excitait vivement sa curiosité. Depuis quelque temps, ce n'était qu'au jour que je plaçais sa nourriture, habitude que j'ai prise lorsque tu me remplaces dans ces aimables occupations. Et cette fois, j'agissais, de nuit, à la lueur d'un quinquet masqué d'une gaze rose, et que j'avais fait descendre par deux poulies correspondantes dans l'asile de Niobé. Aucun de ces mouvements ne pouvait donc m'échapper. Elle fit d'abord de grandes démonstrations de surprise à la vue de ce soleil artificiel. Elle parut interroger ses yeux. Puis, nouvel incas, cette autre péruvienne sembla vouloir se prosterner devant ce qu'elle se figurait sans doute dans son imagination sans culture, un être supérieur qui jetait à dessein sur elle un déluge de lumière. Ensuite, se blottissant dans une embrasure, se formant un rideau de ses beaux cheveux, elle avait l'air encore de vouloir se dérober à ses clartés indiscrètes. Son sein, dépositaire sensible de la moindre émotion nouvelle, se soulevait alors d'un mouvement délicieux et donnait un présage enchanteur de ses agitations lorsqu'il serait ému par le plaisir. Elle se leva sur ses petits pieds, comme pour questionner son séjour sur cette singularité. Mais le chaos de ses esprits ne laisse de former aucune chaîne exacte de pensée dans cette tête charmante, et l'instinct seul la détourna aussitôt de cette attention passagère pour lui faire faire d'autres mouvements sans but. Elle peigne ses cheveux, intelligence qui m'a étonné. Mais avant cette découverte de sa part, elle a brisé en jouant plusieurs des peignes d'ivoire que j'avais exprès placés sur un fauteuil. toute son argenterie est bosselée et tordue. Je me suis convaincu que Niobé, n'ayant pas deviné l'utilité d'une fourchette ou d'une cuillère, elle ne s'en est servie que comme de joujou. J'ai très bien fait de fixer le vase qui contient de l'eau, car elle riait beaucoup en la répandant sur le parquet et en mettant ses jolis petits pieds dedans. Elle se lave souvent la figure, ce qui m'a convaincu que cette attention de propreté était naturelle. Mais l'intelligence de cette chère disciple de la nature ne fait pas plus de progrès moraux dans l'âge de l'adolescence auquel elle est parvenue qu'elle n'en fit dans sa plus tendre enfance. Le temps ne fait que fortifier son ignorance. Sa figure adorable, un peu ternie, il est vrai par la pâleur que cette vie sédentaire lui cause, et ses formes magnifiques, seules étrangères à ce genre d'existence, se développent avec une énergie qui annonce l'heureuse absence de toutes les vicissitudes humaines. Cette pudeur innée, tant vantée par nos moralistes, est bien loin de se faire remarquer dans Niobé. Voilà surtout, mon cher Florimond, le point curieux du problème que je prétends résoudre dans la personne de cette belle sauvage. J'en suis convaincu d'avance, elle me sourira et ce front, pur comme le ciel, ne se colorera que de la rougeur de la volupté. J'allais me retirer de ce séduisant spectacle, l'imagination remplie d'images enchanteresses, lorsqu'elle fit entendre quelques inflexions de voix qui témoignaient plus d'enjouement que de mélancolie. Elle jouit donc du véritable bonheur dans cette retraite, ma chère Niobé, puisqu'elle ne peut faire aucune comparaison, seul système qui le détruise. Aussi le sourire est toujours sur sa bouche. Elle repose souvent. Là paraissent ses oisivetés si dangereuses dans l'homme civilisé. Sont pour elle l'existence même et prouvent à la fois que l'intention de l'être suprême sur les destinées de l'homme n'était point du tout qu'il passât sa vie dans des travaux forcés et une douloureuse industrie qui absorbe les plus belles années de son existence. Elle a fait encore quelques pas vers ses draperies dont, ce qu'il m'a paru, elle se couvre très bien pendant son sommeil. Jamais l'amour-propre ni la coquetterie n'entreront dans ce cœur ingénu. Elle ne peut devoir l'un qu'à la connaissance de son être, sur lequel elle est dans la plus grande obscurité, et l'autre ne pourrait prendre naissance que dans une glace avec laquelle elle folâtrerait probablement toute la journée. Bon premier bulletin t'instruira, mon cher Florimond, de l'essai de ce meuble que je me propose de mettre incessamment sous ses yeux. Adieu, discrétion et attachement pour la vie, Saint-Hilaire. Lettre troisième. Conçois-tu mon bonheur, cher Florimond? Je suis enfin monté sur ce trône d'ivoire et d'ébène que je brûlais d'usurper. Cette charmante Niobé, depuis 16 mortelles années, captive pour mon bonheur, a vu tomber en un instant ses chaînes avec la fleur de sa virginité. Enfin, je la rends au monde, et elle y entre par la porte du plaisir. Couronnée des plus belles roses virginales que l'on puisse cueillir dans le jardin d'Italie, un charmant bouton de rose s'est épanoui sous mes baisers brûlants. Quelle félicité! La scène vit encore dans mon âme, et ma plume ne peut exprimer les délices de ce voluptueux trépas. Niobé, d'abord alarmée à ma vue, s'était enveloppée dans ses draperies, telle qu'une timide colombe fuirait sous une pelouse épaisse à l'aspect d'un ardent épervier. Mais à la terreur de me voir comme naissant sous ses pas, succéda bientôt l'étonnement à la curiosité, la curiosité au désir, le désir à l'empire des sens. La nature fut complice du reste. Mais la nature ne laissa pas, où il faut en convenir, de s'investir des plus fines nuances d'une pudique résistance. Allez, ce ne sera pas, monsieur, n'y consentirai jamais. Je suis une femme perdue. De nos jolies françaises ne vinrent pas, il est vrai, faire entendre leur piquant langage dans les premiers préludes. Mais la pudeur de Niobé n'en fit pas moins entendre des cris perçants. Dans sa défense, aussi agaçante qu'originale, c'était comme des brusqueries spontanées, puis les gestes vigoureux d'une main qui cherchait à repousser ma bouche collée sur la plus belle gorge du monde. Furtive comme la fauvette, Niobé tantôt s'échappait avec violence de mes bras amoureux, en me lançant des regards furieux, égarés, tantôt se précipitant sur mon sein, me touchant de toutes parts, comme pour me connaître, puis jetant des cris aigus, semblables à ceux d'un muet, elle revenait à moi, me serrait dans ses bras et, d'un œil fixe et stupide, m'offrait la physionomie d'une folle au plus haut degré de la démence. Je ne pus d'abord distinguer si, dans mes attaques directes ou putes, où je tendais, la pureté était vraiment alarmée, et si le seul sentiment de la crainte n'animait pas sa petite rébellion. Mais bientôt je me convainquis que Niobé ne redoutait que la douleur et non le plaisir, dont le sentiment ainsi que le goût règne au fond du cœur le plus sauvage. Or la lutte ne fut pas longue. Son entière nudité la mettait à cet égard dans un désavantage trop grand. Prisonnière sous mes mains caressantes, elle ne put m'empêcher de cueillir le fruit sur l'arbre, à quelques pleurs près, car j'étais souvent dit, Florimond, que Niobé avait le pied extrêmement petit. Il ne me fallut pas après, comme auprès d'une parisienne minaudière, appelée pour remplir les intervalles du plaisir, le jeu grimacier des yeux et de la parole. Mon élève de la nature, belle d'elle-même, resta quelques instants dans une langoureuse léthargie. Et son attitude sans art, sans projet, fut pour moi un plus puissant véhicule que toutes les agaceries étudiées du beau sexe dressées par l'artifice de nos mœurs. Je la quittai enfin. Adieu, Niobé, lui dis-je. Adieu, mon amour. Adieu, mon cher trésor. Je vais revenir bientôt. Ne pleure pas, surtout. Repose-toi, ajoutai-je en lui indiquant son lit, et même en l'y portant. Mais elle se relevait mélancoliquement. Ses yeux, déjà instruits à peindre les passions et les regrets, exprimaient les siens, et ce ne fut qu'avec des peines incroyables que je parvins moi-même à m'arracher de sa présence. Lorsque je m'y déterminai, et que, faisant pivoter la porte d'entrée qui est près du tour, je lui jetais mes derniers regards, elle avait ses beaux bras tendus vers moi. Puis quittant cette attitude, elle se dirigea vers ses draperies, s'y endormit profondément. Probablement émue de songes qui, à en juger par son agitation, lui représentaient les scènes d'amour dont je venais de lui faire une si voluptueuse répétition. Cependant, malgré ma légèreté sur le grand œuvre qui vient d'être consommée dans Niobé, je ne puis disconvenir, Florimond, que mes systèmes reçoivent un affront sanglant. Niobé a montré des germes de vertu et de pudeur, et mes sophismes licencieux sont détruits. Pour faire diversion à l'humiliation de cette pensée, songeons plutôt au progrès rapide que nous allons, en l'envie l'un de l'autre, faire à notre intéressante élève, et n'examinons pas si nous sommes coupables. Je redoute trop moi-même de me sonder en ce moment. Reçois les sincères embrassements de Saint-Hilaire. Nota. Dans de nouvelles lettres, ces deux scélérats entrent dans de nouveaux détails sur le plan de l'éducation qu'il se propose de donner à Niobé. Mais ils sont trop scandaleux pour s'ouvrir le jour de l'impression. Nous les supprimons donc, ainsi que tout le reste de cette odieuse correspondance, pour n'en faire connaître en substance que les faits qui forment le dénouement de cette histoire. Saint-Hilaire continua encore quelques mois de parcourir le cercle de 1000 prostitutions criminelles avec Niobé. Mais la nourrice qui avait donné pendant quelques semaines le sein à Mademoiselle Saint-Hilaire et s'était prêtée par faiblesse à toute la fable de la prétendue mort de son nourrisson, moyennant une somme considérable, fit sur ses entrefaites une maladie dangereuse et, voyant sa fin approcher, fit appeler le ministre du lieu à l'effet de lui communiquer d'importantes révélations. Dans ses aveux, elle mit donc au grand jour toute l'horreur de la conduite de Saint-Hilaire, qui, indubitablement, déclara-t-elle, avait précipité dans quelque souterrain sa propre fille pour la destiner un jour à être la victime de quelque plan criminel. Elle ajouta qu'ayant conçu de suite une inclination très vive pour cet aimable enfant, elle lui avait fait un léger stigmate sur le sein droit pour pouvoir la reconnaître à tout événement. Cette nourrice mourut peu de temps après cette déclaration. Le religieux crut dans cette occasion de son devoir de rompre le silence que lui imposait le sceau sacré de la confession. Il instruisit donc la justice, puis la police de Paris, ensuite le bureau des mœurs de cette étrange aventure. Le grand juge, le ministère public mirent aussitôt des agents adroits qui épièrent la conduite de Saint-Hilaire ainsi que celle de Florimond. On observa habilement toutes leurs démarches et on parvint enfin à les suivre au faubourg Saint-Honoré, rue de, à cette maison mystérieuse, objet constant de leur secrète menée. Du jardin, on les vit, pendant la nuit, munis d'une lanterne sourde, se frayer un passage à travers les pins qui formaient un rideau épais autour du pavillon octogone sous lequel se trouvait renfermée la malheureuse Niobé. Puis on remarqua qu'il disparaissait comme par une trappe de théâtre. Ainsi, le ministère public, après s'être convaincu que les révélations de cette nourrice n'était rien moins que fabuleuse, aposta plusieurs hommes armés qui se saisirent un soir de la personne de Florimond ainsi que de celle de Saint-Hilaire. Ils furent aussitôt mis séparément au secret. Mais ni l'un ni l'autre, n'ayant jamais voulu faire aucun aveu, on se trouva forcé de faire des fouilles dans le jardin de cet asile du crime et de charger d'habiles architectes de sonder dans quel caveau souterrain la pauvre victime de la débauche pouvait être ensevelie. Ce ne fut qu'après avoir fait jeter à bas un mur de 10 pieds d'épaisseur qu'on parvint enfin à distinguer les soupirs et les gémissements d'une créature humaine, de l'infortuné Niobé qui, sans nourriture depuis 24 heures, allait succomber à toutes les horreurs de la faim. Trouvé étendu, presque sans vie, sur ses draperies de velours, déjà frappé depuis 17 ans de mort civile, elle allait expirer, ignorée du monde entier, quand les secours les plus prompts vinrent la rappeler à la vie. On eut cependant beaucoup de peine encore à la faire entrer de force dans une voiture après l'avoir revêtue à la hâte de quelques vêtements. Sa mère, sa tendre mère, frappée, attendrie au-delà de toute expression d'un tel phénomène, ne sachait dans quels termes remercier la Providence, dans quel langage exprimer son étonnement, son indignation sur la perversité de son époux, et joignait à ses rapides réflexions les plus amers regrets sur les erreurs de sa première jeunesse. Elle accusait en secret la légèreté de ses principes d'alors, d'avoir contribué à porter Saint-Hilaire à cet excès d'audace dans le vice. Enfin, elle se repentait. Et cette heureuse disposition ne pouvait manquer de la rendre agréable au ciel, qui avait daigné ne pas l'abandonner en lui rendant son précieux et unique enfant. Elle prodigua donc tous les soins imaginables à sa chère fille, qui portait effectivement sur le sein droit, comme elle s'en convainquit, la marque que la nourrice avait déclarée. En outre, une sage-femme fut appelée pour la constater judiciairement et la faire mentionner dans le procès-verbal de l'architecte qui devait être joint au dossier de la procédure déjà entamée par les gens de justice. Ce ne fut pas sans la couvrir mille fois d'ardents baisers, cette précieuse marque que Madame Saint-Hilaire reconnut, cette preuve irrécusable, qu'elle pressait en effet sur son sein sa fille chérie qu'un barbare avait frauduleusement enlevée de ses bras maternels. Quant à notre belle héroïne, l'intéressante Niobé, elle reçut en peu de temps l'éducation convenable à son âge, à son sexe et à ses malheurs. Madame Saint-Hilaire, divorcée, s'appliqua par les plus tendres soins à effacer de l'esprit de sa fille le souvenir du genre de vie extraordinaire qu'un libertinage infernal lui avait fait passer dans une espèce de cachot obscur. Mais, malgré les attentions les plus délicates, une sourde mélancolie va bientôt s'emparer de l'âme de Niobé. Cette aimable victime, rendue brusquement à la société, sentit qu'elle ne pouvait plus paraître dans le monde avec ses dignités et ce respect que s'attire une vertu sans tache. Et bien qu'elle pouvait se justifier complètement à ses yeux d'un genre de séduction peut-être unique dans les annales du vice, elle prit une ferme résolution et finit par communiquer à sa mère que son intention était de prendre le voile et d'effacer dans les austérités du cloître les atteintes que sa vertu intentionnelle et sa pureté avaient souffertes. Madame Saint-Hilaire, désolée d'une aussi cruelle séparation, dut cependant s'y résigner, ne prenant pas à contrarier les vœux sacrés de sa fille. Niobé, d'ailleurs, était devenu l'objet de la curiosité publique et de toutes les conversations. Elle ne pouvait plus paraître dans un spectacle, dans une promenade, sans être en quelque sorte montrée au doigt. « Voilà, se disait-on en chuchotant, l'élève de la nature. Qu'elle est belle, mais aussi que son air est singulier. » Elle a donc vécu près de 17 ans dans une sorte de thébaïde, ajoutait un autre. Oui, répondait celle-ci, c'est ce qu'on appelait la précieuse bibliothèque. Ses pénibles communications couraient du parterre aux loges, et cette célébrité scandaleuse ne contribua pas pour faire apprendre à Niobé le parti de se retirer du monde. Quant aux coupables, Saint-Hilaire et Florimond, ils auraient subi le juste châtiment de leur délit si le crédit puissant de leur famille n'eût obtenu de faire commuer la peine infligée contre celle de l'exil. Cependant, si tous les incestueux de la capitale et des provinces étaient condamnés au bannissement, quel vaisseau assez vaste pourrait contenir cette nombreuse émigration ? Nous aurions voulu laisser dans l'esprit de nos lecteurs un sentiment plus consolant que l'idée de voir la jeune et belle Niobé, victime des scélératesses d'un monstre, consacrant le reste de ses jours à l'austérité et au repentir, tandis qu'elle ne participa nullement, d'intention du moins, aux profanations commises sur sa personne. Mais le respect que nous avons pour la vérité des faits ne nous permet pas de les altérer. D'ailleurs, les autels, en épurant l'âme de Niobé, n'étaient-ils pas devenus son seul refuge? Et ne doit-on pas encore la trouver fort heureuse de s'être sentie une vocation capable de rendre un jour à sa vertu tout son éclat? Madame Saint-Hilaire survécut peu d'années à tant d'infortunes et mourut en recevant les tendres consolations de sa fille, devenu par la suite un véritable modèle de sagesse et de piété sous les auspices de la religion.